Le journal Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin, une nouvelle journée d'angoisse pour les salariés de GMES. Le tribunal de commerce de Poitiers doit rendre ce soir ses décisions sur l'avenir de l'équipementier automobile Crozois, la liquidation ou la reprise. Les députés s'apprêtent à défaire en partie le travail des sénateurs. L'Assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui le texte sur la moralisation de la vie publique. L'opposition dénonce un texte vidé de sa substance. L'été s'annonce plus délicat que prévu pour l'exécutif. Popularité en berne pour le président, qui réaménage son agenda au dernier moment pour éviter les critiques des associations de lutte contre le sida. Autre sujet de controverse, la baisse des allocations logement. Les associations demandent une entrevue avec le pouvoir et dénoncent les effets sur les plus pauvres. Reportage dans ce journal. Présidence Macron, baisse des dépenses publiques, ce sera au menu de votre interview de 8h20. Pierre, vous recevez Pierre Moscovici.
Le commissaire européen aux affaires économiques et financières, la Commission européenne, qui est toujours là et qui surveille les économie française en exigeant que l'on contienne le déficit à 3% du produit intérieur brut. Pierre Moscovici répondra à vos questions dans Interactive 01 45 24 7000. Ce sera à partir de 9h-20, mais le standard est ouvert.
Au programme également, les tensions à Jérusalem autour de l'esplanade des mosquées. L'ONU s'empare du sujet. La nouvelle coqueluche des amateurs de cyclisme s'appelle Warren Barguil et la mode du livre audio en fin de journal.
France Inter.
Faut-il s'attendre aujourd'hui à une nouvelle action spectaculaire des GMES, une nouvelle occupation d'usine par exemple? Les salariés de l'équipementier automobile Crozois doivent se réunir ce matin. C'est une journée décisive en effet pour leur avenir. Encore une journée d'angoisse pour les 277 salariés. C'est aujourd'hui en effet que la justice doit se prononcer sur leur sort après plusieurs reports. Décision ce soir à 18h du tribunal de commerce de Poitiers qui a le choix entre deux options, la liquidation judiciaire ou la reprise par GMD qui n'entend reprendre que 120 salariés. C'est peut-être l'épilogue d'un feuilleton qui est devenu ces derniers mois le premier casse-tête industriel du gouvernement. Maxime Debs.
Ce dossier, c'est d'abord de l'indifférence au départ et une menace au printemps. Après des mois de mobilisation sans résultat, les salariés décident de piéger leur usine. Si personne ne fait rien pour eux, ils feront tout sauter.
Si c'est liquidé, regardez les bonbonnes de gaz. Nous, on est nés avec cette usine, on crèvera avec.
Des politiques longtemps muets viennent alors au chevet des ouvriers. Acclamé, Jean-Luc Mélenchon se rend à la souterraine. L'ex-candidat à la présidentielle s'en prend aux constructeurs PSA et Renault, accusés de les laisser tomber, et à l'État actionnaire qui resterait les bras croisés.
Faut arrêter de dire j'y peux rien, je sais pas quoi, la mondialisation, blablabla. Bon sang, c'est le moment de montrer un peu de caractère.
L'exécutif interpellé, Renault et PSA finiront par augmenter le volume de leurs commandes, mais le dossier patine, toujours pas d'offre claire sur la table, impossible repreneur qui se fait désirer. Au sortir d'une énième réunion à Bercy, Yann Ogras de la CGT hausse le ton.
On t'apprend n'importe où, dans n'importe quel coin de la France. Ça sera stopper le Tour de France, ça sera les défilés au 14 juillet, ça nous pose aucun problème.
14 juillet et Tour de France seront au final épargnés, une usine Renault bloquée à la place. Dans la tempête, le ministre Bruno Le Maire tente de rassurer.
Il n'y a pas un salarié qui sera laissé de côté.
Dans le meilleur des cas, seuls 120 salariés pourraient être sauvés, à moins que la liquidation sèche ne soit prononcée. Une possibilité que personne n'ose seulement imaginez.
Maxime Debs du service économique de France Inter. Autre feuilleton de l'été, les ordonnances sur le code du travail. Après les députés, c'est aujourd'hui aux sénateurs d'examiner le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance. Des sénateurs en majorité à droite qui envisagent de durcir le texte, dit l'opposition. Un exemple, le Sénat envisage de demander que le salarié victime d'un licenciement économique ne puisse le contester devant les prud'hommes que dans un délai de 6 mois et non d'un an, comme c'était le cas aujourd'hui. On change de chambre et de texte avec des discussions tendues en perspective à l'Assemblée nationale. Cette fois, c'est le texte sur la moralisation de la vie publique qui sera examiné à partir d'aujourd'hui. Le Sénat avait bien tenté de renforcer le projet de loi en demandant par exemple un meilleur contrôle des membres du gouvernement. Mais ces quelques avancées risquent bien d'être détricotées par les députés d'En Marche. Charlotte Piret.
Les sénateurs ont bien tenté de laisser leur empreinte sur ce texte phare du début de mandat. Pas sûr que ça marche cependant, car dès l'examen du texte en commission des lois de l'Assemblée la semaine dernière. Plusieurs mesures adoptées par la Chambre haute ont d'ores et déjà été retoquées. C'est le cas de la prévention des conflits d'intérêts pour les fonctionnaires également. C'est le cas aussi du registre de déport, cette interdiction pour un parlementaire de participer à un débat sur une entreprise ou un domaine dans lequel il a travaillé et que les sénateurs voulaient voir élargi au gouvernement. Les députés ont également choisi de restaurer la Banque de la démocratie, nouvelle entité pour le financement de la vie politique au contour jugé trop flou par les sénateurs. Et puis, la commission des lois de l'Assemblée a adopté un amendement MoDem contre l'avis de la rapporteure. Il prévoit l'obligation d'un casier judiciaire vierge pour se présenter à toute élection. Mesure qui revient en somme à prononcer une inéligibilité systématique en cas de condamnation. Sorte de double peine qui pourrait contrarier le Conseil constitutionnel.
Autre point d'achoppement, la réserve parlementaire. Cette enveloppe que députés et sénateurs peuvent utiliser à discrétion pour soutenir des projets dans leur circonscription. Les députés Les Républicains et les Socialistes de Nouvelle Gauche ne veulent pas de sa disparition. Le Sénat avait proposé de la remplacer par un fonds de soutien local, mais le gouvernement a bien l'intention de signer son arrêt de mort.
Il est 8h06, Sébastien Legény, une autre mesure soumise à controverse depuis ce week-end, la baisse des allocations logement.
Oui, moins 5 euros par mois et par foyer à partir d'octobre, 60 euros de moins sur un an. Les associations comme la Fondation Abbé Pierre sont vent debout et demandent une rencontre avec l'exécutif pour défendre le cas des plus en difficulté. 6,5 millions de ménages français touchent ces aides. Mathilde Lemaire a rencontré l'une des bénéficiaires très amère.
Léa a 26 ans. Elle est secrétaire dans une grande entreprise française. Un travail payé au SMIC. Léa élève seule sa petite fille de 4 ans dans un HLM à Paris. Loyer de l'appartement, 700 euros par mois. Alors son aide personnalisée au logement, même de seulement 50 euros, Léa y tient. Elle se prépare à ne plus recevoir que 45 euros à partir d'octobre.
En fait, j'ai pas vraiment cru sur le coup. Je me suis demandé vraiment si c'était une blague ou pas, parce que déjà 50 euros c'était peu par rapport à mon loyer, mais là effectivement, ça va se faire ressentir quoi. Déjà, enfin moi j'essaye de tenir les deux bouts. 5 euros, on va dire que c'est rien, mais si c'est un repas, voilà, c'est des paquets de pâtes. Et avec une petite fille, 5 euros pour moi, je vous dis, c'est pas rien. Voilà, déjà la viande, c'est une fois par semaine à peu près, on se prive, c'est clair, on se prive. Et là, ça va être encore pire. J'ai voté au deuxième tour Macron, mais je suis déçue. Les APL, c'est pour des personnes qui ont du mal à payer leur loyer. Donc pourquoi, en fait, ils s'attaquent à la population la plus dans le besoin? Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas chercher ailleurs l'argent?
Léa a déjà discuté ce week-end avec ses voisins de cette diminution annoncée des aides au logement. Cela fait parler dans l'immeuble, dit-elle. À son étage, quasi tout le monde compte sur ces aides en fin de mois. Chacun va perdre 60 euros annuels de revenus.
Un reportage de Mathilde Lemaire. Ses critiques sur les APL ne sont que les dernières en date d'une séquence très délicate pour Emmanuel Macron. Démission du chef d'état-major des armées la semaine dernière. Hier, les associations de lutte contre le sida ont aussi publiquement déploré l'absence du président à l'ouverture de la conférence internationale sur le sida. Bref, la période estivale s'annonce plus sensible que prévu, au point que pour la première fois, la cote de popularité du chef de l'État s'effrite. Un trou d'air que l'entourage d'Emmanuel Macron tente de minimiser. Estelle Schmitt.
Franchement, pas de quoi s'affoler, assure un proche du président. Emmanuel Macron sait mieux que personne sortir des situations difficiles, d'après ce député, surpris tout de même que l'état de grâce dont bénéficiait le chef de l'État ait duré si peu de temps. Forcément, quand on réforme, on prend le risque de déplaire, analyse un élu MoDem qui refuse lui aussi de dramatiser. Rien de grave donc. Pourtant, face à la grogne d'associations qui déploraient l'absence du président de la République à la conférence mondiale sur le sida, l'Élysée a modifié l'agenda d'Emmanuel Macron. Il reçoit finalement cet après-midi, plusieurs responsables d'associations, juste avant son entrevue avec le chanteur Bono, qui plaide pour l'accès à l'éducation dans les pays en voie de développement. Bono et pas les associations contre le sida, cela ne serait pas passé, explique une députée La République En Marche, critique également au sujet de la baisse des aides publiques pour le logement. Emmanuel Macron risque de perdre les jeunes et une partie de l'électorat de gauche redoute cet élu. Et quand on perd un électorat, selon elle, on ne le retrouve jamais.
Estelle Schmitt du service politique de France Inter. Comme un parfum d'insoumission chez les militants d'En Marche. On est encore loin d'une fronde, mais une trentaine d'adhérents du mouvement contestent la validité des statuts du parti. Ils ont déposé un recours devant le tribunal de Créteil qui sera examiné cet après-midi. Ils estiment notamment que les statuts en question leur ont été soumis trop tard, avant le début de la convention nationale du mouvement.
8h09 à l'étranger, la nouvelle crise israélo-palestinienne au menu ce soir d'un conseil de sécurité de l'ONU, Sébastien.
Les Nations Unies qui se pencheront en effet sur les violences à Jérusalem et dans les territoires occupés depuis plusieurs jours, depuis l'installation par l'État hébreu de détecteurs de métaux à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Une surveillance dont ne veulent pas les Palestiniens qui prient désormais tous les jours en dehors de la vieille ville en signe de protestation. À Jérusalem, Marine Vlaovic.
L'appel à la prière résonne depuis l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. Bloquée à l'extérieur par un cordon policier, des milliers de personnes entament alors une prière de rue au pied des murailles. Rania vient ici tous les jours depuis une semaine et elle ne comprend pas la fermeté du gouvernement israélien qui se refuse à enlever les détecteurs de métaux décriés.
Ils ne respectent pas nos croyances, notre foi. Si c'était le cas, nous ne serions pas là. Et ils doivent être surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce nombre de personnes se mobilisent. Nous ne voulons pas les attaquer, nous voulons prier. C'est notre droit.
Des jeunes Palestiniens sont venus par centaines des quartiers est de Jérusalem, bien décidés comme Ahmed à contester ces mesures de sécurité malgré la flambée de violence de ces derniers jours.
Nous n'allons pas abandonner, nous continuerons à prier ici, même après toutes ces attaques. Ils nous ont tué des gens, ils nous ont violentés, mais nous continuerons à venir.
La foule est dispersée sans ménagement par la police israélienne. Mais promis de se réunir encore aujourd'hui. Aux abords de l'esplanade des mosquées. Jérusalem, Marine Vlaovic, France Inter.
Ajoutons qu'hier, une fusillade a éclaté également à l'ambassade d'Israël en Jordanie. Deux morts, deux Jordaniens et un blessé grave, le garde de sécurité israélien. En Afghanistan, nouvel attentat sanglant dans la capitale de Kaboul. Ce matin, une voiture piégée a fait au moins 24 morts et 42 blessés. En mai, un camion piégé avait tué 150 personnes. On revient en France avec ce quartier sensible de Grenoble, privé de crèches, suite à un conflit entre les ouvriers du chantier et certains jeunes du quartier Le Village 2. Les ouvriers se plaignent d'intimidation, de menaces de la part de certains habitants qui exigent d'être embauchés eux aussi sur le chantier de construction. En réponse, les entreprises de BTP ont annoncé l'interruption des travaux, une décision soutenue et comprise par la mairie de Grenoble. Le reportage de Véronique Puyot de France Bleu Isère.
40 enfants devaient être accueillis à la rentrée de septembre dans une crèche toute neuve. Eh bien, c'est raté à cause de 4 ou 5 jeunes du quartier Le Village 2 qui en ont décidé autrement. Ils ont harcelé les ouvriers de deux entreprises de BTP qui travaillaient sur le chantier en les menaçant s'ils n'étaient pas embauchés. Les entreprises ont décidé de jeter l'éponge provisoirement. Thierry Monel, le premier adjoint des Chirolles.
Il faut bien se mettre d'une part à la place des ouvriers qui interviennent sur ce chantier. C'est pas quelque chose de facile à vivre. Certains d'entre eux en ont été traumatisés en disant « bon, c'est quand même infernal de pas pouvoir travailler correctement », et certains ont eu peur. Il y a aussi des menaces violentes à leur égard.
La mairie des Chirolles a rencontré les fauteurs de troubles à plusieurs reprises pour accompagner ces jeunes vers une formation ou un emploi, tout en sachant aussi que certains, en faisant arrêter le chantier, voulaient ainsi montrer leur force pour contrôler le quartier où récemment un trafic de drogue a été démantelé par la police. Thierry Monel entend aussi le ras-le-bol des habitants.
Je sais qu'un certain nombre d'entre eux relaient auprès de diverses familles du quartier le fait qu'il n'est pas acceptable que ces chantiers soient bloqués par quelques-uns qui viennent perturber le bon fonctionnement d'un quartier et d'un territoire.
La ville a écrit au procureur de la République et a interpellé la préfecture, qui a donc décidé d'organiser mardi prochain une réunion autour de ce problème.
Véronique Puyot de France Bleu, Isère. Un mot de sport pour confirmer évidemment la quatrième victoire de Christopher Froome sur le Tour de France, sans avoir jamais gagné une seule étape sur le Tour. Romain Bardet lui a décroché son deuxième podium, une troisième place rassurante pour l'avenir. Mais c'est d'un autre Français qu'est venu le vent de fraîcheur cette année, le Français Warren Barguil, maillot à poids rouge de meilleur grimpeur, nouvelle coqueluche des bords de route. Fanny Lechevestrier.
À 25 ans, c'est certain, le Breton, avec sa petite bouille de gamin, ses yeux rieurs et sa voix fluette, a marqué les esprits. Il n'y avait qu'à voir hier encore le nombre d'affiches au bord de la route avec des petits pois rouges et un message tout simple. Merci Warren. Warren Barguil est en train de devenir le nouveau chouchou du public.
Je ne sais pas si c'est en marche, mais pour moi, j'ai pris un énorme plaisir durant tout ce tour. Donc, ça a été 3 semaines exceptionnelles pour moi, 3 semaines de folie. Maintenant, il va falloir revenir de mon petit nuage.
Un petit nuage qui lui a donné foi un 14 juillet, puis l'a mené jusqu'au sommet de l'Izoard, s'imposant avec panache au nez et à la barbe des favoris. Une image qui a fait ressurgir quelques souvenirs à son prédécesseur Richard Virenque, cette fois meilleur grimpeur du Tour, au point de le faire pleurer.
Mon premier maillot à poids, je l'ai endossé à 25 ans. Franchement, sa façon de courir à l'action, et je me suis remémoré ce que j'avais vécu, l'émotion que j'avais vécue 12 ans auparavant, et là je suis parti en larmes.
Richard Virenque, qui voit même en son digne héritier un futur maillot jaune, à condition, dit-il, qu'il ne change pas sa façon de courir et qu'il garde son panache à la Virenque.
Fanny Lechevestrier, du service des sports de Radio France. En natation, après l'eau libre, début des championnats du monde de natation en bassin à Budapest aujourd'hui, l'Amiénois Jérémy Stravius débute ses mondiaux avec les séries du 200 mètres ce matin. On termine avec un nouveau compagnon de route idéal pour vos vacances, un livre, mais un livre audio. L'offre se développe de plus en plus chaque année. Un Français sur 5 a déjà écouté un livre audio. Contrairement aux préjugés, ce support n'est pas réservé aux malvoyants et l'offre des éditeurs est de plus en plus riche. Ilana Mouriouceff.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.
J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué.
L'étranger de Camus, lu par l'auteur. C'est l'un des trésors publiés par Patrick Frémaux, l'un des plus importants éditeurs de livres audio.
La voix est une sorte d'exhausteur de la compréhension et une sorte de lecture interprétative du texte. Tous les grands comédiens savent qu'ils doivent à un moment donné devenir l'auteur du livre.
Marie-Christine Barrault a prêté sa voix à de nombreux écrivains. Elle dit que la lecture à voix haute est à l'origine de sa vocation de comédienne.
C'est comme ça que ça m'est venu le désir d'être actrice. Sur les bancs de l'école, dès que le professeur de français nous donnait un texte à découvrir, j'avais une telle joie, c'était tellement énorme pour moi ce que j'ai prouvé, qu'immédiatement j'avais envie de le faire entendre.
On peut faire tout un tas de choses, y compris des associations voix et texte décapantes. Ici, les carnets du sous-sol de Dostoïevski, lus par Hubert-Félix Thiéfen.
Je sais parfaitement bien que ce ne sont pas les docteurs que j'emmerde en refusant de me soigner. J'ai mal au foie, tant mieux qu'il me fasse encore plus mal.
Écoutez, c'est une autre façon de lire, et comme dirait Guillaume Gallienne,
ça peut pas faire de mal.
Et bien sûr, en été, vous l'avez compris, on peut aussi podcaster, ça peut pas faire de mal, l'émission de lecture de Guillaume Gallienne sur le site de France Inter, ou écouter tout l'été des rediffusions de dimanche à midi.
C'était le journal de Sébastien Legénie.